Et puis c'est vrai que ces petites feuilles comme ça, je pense que ça vous aide un petit peu à poser des bonnes questions. Hein. C'est des phrases un peu choc, des phrases types sur différentes formules. Des fois, on ne se rend pas compte justement de pourquoi une louange fonctionne ou pourquoi une louange ne fonctionne pas. Mais peut-être justement parce qu'il y a des critères qui ne sont pas les bons critères, qui ne sont pas les critères principaux. Ce n'est pas faux en soi, par exemple, de faire de la musique, d'être focalisé sur la musique, mais c'est faux dans le sens où si c'est notre seul but, quoi. Parce que la musique, par exemple, c'est vraiment un moyen pour atteindre Dieu. Et puis, on peut très vite tomber dans un système religieux, habituel, où on accomplit notre rôle, on fait ce qu'on nous dit, puis il ne se passe rien. Et c'est ça le défi, quoi. C'est plus difficile de faire... C'est plus facile de faire quelque chose, voilà, qu'on nous demande de rituel que de se laisser conduire, inspirer, puis d'arriver à faire quelque chose de frais, de nouveau, qui touche les gens, quoi. Et ça, je l'ai remarqué souvent parce que... Par exemple, dans certaines églises où j'ai vécu un bon moment, les gens ils viennent vers moi et disent « Tu peux me donner ta liste ?» Je dis « Mais pourquoi tu veux ma liste ?»« Ah, oh, c'était tellement bien, je veux faire ça à l'église dimanche prochain. » Je dis « Ça ne va pas marcher. » Parce que même moi, je ne recopie pas mes propres listes. En fait, ce n'est pas la liste qui fait le succès de la louange. Bien sûr qu'il y a des chants qui sont bien, qui nous touchent, mais ce n'est pas juste l'ordre, ce n'est pas juste l'enchaînement, ce n'est pas juste les bons chants, c'est qu'il se passe quelque chose dans ces chants-là. Et j'ai constaté que Dieu peut nous toucher avec n'importe quel chant, en fait. À n'importe quel moment, vous êtes d'accord? Des fois, on est surpris, quoi. On ne s'attend peut-être pas, puis tout d'un coup, il y a une phrase qui nous parle, même si c'est un chant. C'est comme la Bible, on lit un texte, puis ça nous passe, puis tout d'un coup, waouh, j'ai pourtant lu ça 100 fois, et puis tout d'un coup, c'est le verset du jour qui nous parle. Et je crois que dans la louange, c'est aussi ça la différence. C'est que si tout d'un coup, on sait que Dieu il est là dans la louange, mais s'il y a vraiment une connexion qui se passe, ça peut se passer à n'importe quel moment, sur n'importe quel champ. Et il faut juste être prêt à ça. Et puis créer, je n'aime pas le mot atmosphère, mais créer le plateau, mettre à disposition ce moment pour Dieu, pour qu'il puisse venir se manifester et parler aux gens. Et ce n'est pas moi qui le fabrique, ça. Je ne peux pas poser sur le bouton « Attention, Dieu arrive ». Boum! Ça serait bien des fois. Hein. Jusqu'à présent, c'était l'échauffement. Puis tout à coup, voilà. Dans certaines églises, il y a le moment où on chante le Alléluia, puis c'est le moment où Dieu arrive. Non, il n'y a pas un chant qui est plus béni. Ça, c'est les émotions qui réagissent. Hein. Mais le Saint-Esprit, il peut dépasser, et il doit dépasser nos émotions, notre manière de faire. Et c'est pour ça que j'essaie de bien spécifier la différence entre Sion et Silo. Et vous pouvez lire, lisez l'histoire de Élie. Le prophète qui a éduqué Samuel, hein, il était dans la routine. Pourtant, Dieu a amené Samuel dans un contexte très religieux. Puis Dieu l'a formé là au milieu. Mais Samuel, il était différent. Puis il a amené une parole de Dieu. Alors qu'avant, c'était que des rituels. Puis les fils d'Élie faisaient n'importe quoi. Ils puisaient dans les sacrifices. Ils se moquaient des gens. Et vraiment, ils étaient à fond dans une religiosité qui s'était détournée de Dieu. Et ça nous guette toutes. Tous, hein, toutes les églises peuvent être guettées par cette routine qui nous éloigne finalement du but premier. Puis notre défi, c'est dans la louange de rester à l'écoute, connecté pour amener les choses vraies. Puis ben, en tout cas, j'ai lu aussi vos petits billets. Je crois que il y a plein de belles choses là qui peuvent vous inspirer, qu'il faut garder vraiment dans le cœur pour préparer. Effectivement, dans un moment de louange, on peut pas tout faire. Parce que la structure de nos églises, de nos organisations ne nous permet pas de tout vivre tout le temps. Mais moi, j'essaie d'avoir une vision large, me dire, ben, durant l'année qui vient, est-ce que je pourrais expérimenter un petit peu tous ces aspects-là? Peut-être qu'un dimanche, on va se focaliser plus sur l'expression des dons, un autre dimanche sur la connexion à Dieu, un autre dimanche sur la sincérité, une fois sur parler à Dieu, une fois sur le témoignage. Il y a différents aspects, quoi. C'est vaste. Hein. Donc, vous ne pouvez pas tout faire en une fois. Vous ne pouvez pas chanter tous vos chants, vous ne pouvez pas faire tout le développement, chanter les vieux, les nouveaux, etc. Mais sur une année, ah voilà, là on s'est focalisé plus sur les chants nouveaux, peut-être qu'une fois on va faire plus sur les chants anciens, peut-être que là on va faire plus sur ce thème-là, et puis ça vous donne un petit peu de matière pour varier les choses, et puis rendre les choses vivantes et inspirées par Dieu. Donc ça m'amène tout à fait bien au prochain thème, quels sont nos modèles de louange? Aujourd'hui on est dans une société où on aime bien les modèles, hein. On aime bien copier, on aime bien faire ce qu'on aime. Puis on dit à tout le monde, regarde ce truc-là, c'est bien et c'est cool. Et puis même dans l'église, ça nous arrive. Alors, c'est bien d'avoir des bons modèles. Mais justement, il faut que ça soit des bons modèles et surtout des modèles bibliques. Et surtout par rapport à la louange, Ben, l'époque de la Bible ne nous laisse pas malheureusement des vidéoclips ou bien des enregistrements audio de la louange de David ou de d'autres personnes, donc on ne sait pas trop. Mais justement, je pense que Dieu, il sait dans sa sagesse, il nous a donné suffisamment d'éléments pour qu'on sache ce qui est important et ce qui est bon. Alors, David, je vous en ai déjà parlé, c'est un exemple, c'est un modèle dans le sens où il a mis tout le monde à l'œuvre, car il a impliqué la louange dans tout le peuple. Et je crois que ça, c'est un modèle qui est très intéressant. Il a mis les musiciens, les gens qui avaient du talent, à l'œuvre pour servir le peuple. Ce qui est intéressant, c'est que ces Lévites, ils ne faisaient pas que de chanter. On a parlé de chanter, célébrer, invoquer, mais ils faisaient aussi tout le travail du temple. C'est-à-dire qu'ils s'occupaient aussi des sacrifices, des nettoyages, des rangements et de tout ce qui est pratique aussi. Moi, j'ai eu des gens de la louange, je dis, moi je viens juste pour chanter. Hein. J'arrive et puis après je repars. Hein. La réalité de la louange, c'est qu'il faut venir avant, c'est qu'il faut installer la sono, c'est qu'il faut se voir en semaine, c'est qu'il faut répéter, c'est qu'il faut ranger, nettoyer, travailler, préparer, répéter. Finalement, ce n'est pas juste la demi-heure qu'on a au culte. Hein. Il y a pas mal de travail aussi en amont, avant et après. Et on voit bien que les gens qui durent ou qui servent vraiment dans la louange, ben, ils font aussi toutes ces choses-là pratiques. Il y a de l'organisation et c'est indispensable. Donc, louer Dieu, c'est aussi dans les choses pratiques. Et ce que j'aime souvent à dire aux gens, c'est que votre exemple, parce que quand on conduit la louange, on est un exemple. Parce qu'on est devant, déjà, les gens nous regardent, premièrement. Mais en même temps, même si on n'est pas devant, on est un modèle puisqu'on transmet quelque chose. On invite les gens à la louange. Donc les gens disent, ah ben, est-ce que lui, il loue ? C'est inconscient, mais si vous louez, ils vont louer. Mais moi, j'ai vu des modèles de louange de certaines communautés où la personne dit aux gens, chantez. Le président, il est devant, mais il ne chante pas. Ce n'est pas très enthousiasmant, quoi. Ce n'est pas très entraînant. J'étais dans une église récemment à Paris, et puis il y a une dame qui dit, moi, je préside la louange, mais est-ce que je dois chanter ? La question m'a tellement surpris. Je dis, ben, évidemment. Ah, mais moi, je pensais que je devais juste annoncer des chants. Parce que dans leur tradition, c'était comme ça. Elle était devant, elle annonçait les chants, mais elle ne chantait pas. Puis elle attendait que ce soit fini, puis elle préparait ses papiers pour la suite. Donc c'était vraiment de l'organisation. Je dis, mais la louange, c'est difficile de la transmettre si toi, tu n'es pas un exemple de louange. Donc si tu dis aux gens de chanter que tu ne chantes pas, ça ne marche pas. Et c'est la même chose pour danser, taper dans les mains, crier. Prier, exactement. Vous êtes un exemple dans tout ce que vous faites. Donc moi, j'encourage vraiment l'équipe de louange aussi à prier. Dites, ah, mais à cette assemblée, il n'y a personne qui prie. Mais vous êtes les premiers à devoir prier. Vous avez un micro, vous êtes devant, priez. Même le batteur, le guitariste, n'importe qui, ce n'est pas que celui qui conduit la louange. Vous êtes tous des chrétiens, vous êtes tous au service de Dieu. Donc votre prière est tout aussi importante. N'importe qui peut intervenir, lire un texte, donner une parole, donner une pensée, donner une image, chanter, prier. Faites tout ce qui est la louange. Puis en fait, ne vous cachez pas derrière votre rôle. « Ah, moi je suis juste ça, je suis juste ça. » Moi j'aime beaucoup entendre un batteur chanter. Ce n'est pas toujours possible, hein, mais voilà. Si un morceau, il arrête de jouer ou il chante, il y en a qui arrivent à chanter et à jouer en même temps. Une fois, j'étais dans un couple, j'entendais une voix magnifique. Je dis, mais c'est qui ? Mais je regardais mes chanteuses, il n'y a personne. C'était le batteur. Et il chantait vraiment super bien. Quoi. Dans un moment, il est parti. Et tellement il était touché par ce qui se passait. Et ça touche aussi les gens. Donc, vous êtes un exemple, que vous le vouliez ou non. Vous êtes devant, vous êtes un modèle. Mais vous êtes aussi un modèle quand vous n'êtes pas devant. Parce que dimanche d'après, c'est une autre équipe qui conduit la louange, vous êtes dans la salle. Je n'aime pas ces chants, ça ne me plaît pas. C'est clair que le dimanche d'après, vous revenez devant, les gens disent « Ah, mais c'est bizarre. » Quand il est là, il ne chante pas, mais quand il est là, il nous dit « Allez, chantez, priez !» Non, vous êtes la même personne, non ? Vous êtes la même personne. Donc, soyez impliqués autant dans la salle que devant. Parce que votre louange, elle se communique aussi. J'avais un ami, il était dans la louange, il aimait tellement chanter, mais à peine la louange a fini, il avait un caractère un peu teigneux, puis il râlait tout le temps, quoi. « Ouais, mais... » Je dis « Mais... » C'est difficile de communiquer l'esprit de louange si tu es tout en train de râler, quoi. Parce que ça se communique aussi après, aussi dans l'après-culte, l'apéro, au moment du repas, quand on discute. Si tu es un râleur professionnel, les gens ne vont pas comprendre que tu sois aussi un adorateur. Ça ne colle pas, quoi. Je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de temps en temps. Hein, voilà. Mais si on est complètement dans un autre état d'esprit, puis que la louange, c'est comme une parenthèse dans notre vie, ça ne colle pas. Il faut que la louange... Ça dépasse le moment de louange. Le moment de louange, c'est juste la pointe. Et la louange, se répand dans toute notre vie. Donc soyez des adorateurs à la maison, en famille, au travail, dans toutes les situations. Et je sais que ce n'est pas facile. Ma femme, elle a recommencé à travailler comme institutrice. Elle travaille à mi-temps dans une école, pas très loin de chez nous. Elle dit, mais c'est difficile la salle des maîtres. Mais ça critique, mais ça critique, mais ça critique. Ça n'arrête pas, quoi. Juste de dire, de tenir sa bouche et de ne pas critiquer, c'est compliqué. Et du coup, les autres même te rejettent parce que tu ne rentres pas dans le jeu, quoi. Et ce n'est pas facile. Et on est dans une société comme ça où les gens ne sont pas dans un esprit de louange en général. Hein. Ils sont plutôt dans un esprit contraire à la louange. Donc, on fait tâche, donc on fait une différence. Mais en même temps, on est appelé à faire une différence. On est appelé à faire la lumière. Donc, je ne dis pas que vous allez chanter Alléluia dans votre bureau, pendant la pause, partout. Mais par une attitude où vous n'entrez pas dans cet esprit qui est l'inverse de la louange. Donc, l'esprit de louange, c'est rester connecté à Dieu. Et puis, en dehors des moments qu'on appelle moments de louange. C'est pour ça que dans la Bible, les modèles que je trouve, ben, j'ai regardé un petit peu. Et j'ai trouvé qu'il y en a un qui était très parlant dans le Nouveau Testament, c'est Jean-Baptiste. Pourtant, Jean-Baptiste n'est pas connu comme un musicien ou un chanteur. Mais le peu qu'on voit de Jean-Baptiste, parce qu'il n'y a pas beaucoup de textes, juste quelques-uns, ça donne une direction très claire. Jean-Baptiste, il est venu juste avant Jésus. Et on sait, hein. Et tout ce que Jean-Baptiste dit, il dit non, c'est pas moi. C'est pas moi le sauveur. Il y en a un autre qui est plus grand qui va venir. Et si vous avez cette pensée-là dans la louange, déjà, vous êtes dans la bonne direction. Vous dites, parce que les gens, ils ont très tendance à vous, un petit peu vous élever. Ah, mais tu chantes bien. Ah, mais qu'est-ce que tu joues bien. Ah, mais t'es extraordinaire. Ah, quand tu nous fais chanter, on aime ça. Et puis, ça, c'est le côté humain, quoi. Et puis, nous, on aime tous les compliments, quoi. Si on commence à croire, on va s'envoler un petit peu, hein. Et puis, on va croire qu'on est le plus beau, le plus fort. Et puis, un jour, quand ça se passe pas, ben, on retombe de haut, quoi. Parce que c'est quand même du vent, quoi. Puis c'est très, très futile. Par contre, si on sait que la louange, c'est élever Dieu, on reste bien à notre place. C'est Dieu qui doit être en avant. Il y a quelqu'un de plus grand que moi. Bien sûr, je fais ce que je peux le mieux possible. J'ai reçu des dons, mais ça vient de Dieu. Ça me fait penser au psaume 115 qui dit « Non pas à nous, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. » Et dès qu'on fait un service pour l'Église, on a tous cette tentation-là. De recevoir les compliments, puis de les garder. Il faut les accepter, il ne faut pas tomber dans la fausse humilité. Non, non, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui a tout fait. Non, c'est toi qui as chanté, c'est toi qui as joué. Hein. Dieu se sert de toi, mais c'est vraiment toi. Parce qu'il y a des musiciens qui disent, non, ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Non, non, c'est toi, avec tes doigts, avec ton corps, avec ta vie, c'est juste. Mais je le fais pour Dieu, et je sais que c'est parce que Dieu m'a sauvé, puis je lui redonne la gloire. Donc on a les retours finalement. On est des miroirs, on est des reflets de la lumière, de la présence de Dieu. Donc on redonne tout à Dieu, et Jean-Baptiste disait tout le temps ça. Jean 3, verset 30, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Dans la louange, et ça c'est tellement l'inverse de l'esprit du monde au niveau de la musique. Parce qu'un chanteur, qu'est-ce qu'il veut faire aujourd'hui? Ben, il veut qu'on le voit, qu'on l'entende, qu'on l'applaudisse, et puis qu'on le mette en avant. Et les artistes se battent pour se faire une place dans une maison de disques, sur YouTube, partout pour exister, quoi. Pour qu'ils soient valorisés, pour qu'on les élève, puis qu'ils soient plus hauts que les autres, qu'ils vendent plus de disques, qu'ils aient plus de succès, plus de monde à leur concert, puis puissent dire, bah, mais aussi vite ils sont hauts, aussi vite ils sont bas, hein. Aujourd'hui, ça va encore de plus en plus vite. Parce que t'as des petits jeunes inconnus qui débarquent à la TV, et puis tout d'un coup, après une émission, ils ont gagné, ils sont super hauts. Puis après, 2 ans après, ils disparaissent. Ils n'existent plus. Avant, ça prenait un peu plus de temps, c'était plus compliqué. Mais en même temps, le problème, il était quand même le même. Et dans la musique, c'est ça. On veut mettre un homme en avant. Dans la louange, tu mets Dieu en avant. Donc, tu vas contre cet esprit-là. Et on est tous en lutte avec ça. Puisqu'on fait de la musique, on est quand même influencé par cet esprit de musique, par tout cet environnement musical, artistique. On regarde tous des émissions, on voit tous des artistes qu'on aime, qu'on apprécie. Mais attention, ça ne soit pas notre modèle. Parce que dans la louange, s'il n'y a que vous, écoutez-moi, chantez avec moi, faites comme moi. Oh, oh, hey. Je fais des concerts à 10 000 personnes. Un gars, il dit, oh, tout le monde dit, oh, c'est génial. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait d'extraordinaire? Répéter des onomatopées. Est-ce que c'est ça qui est extraordinaire? Mais oui, parce qu'il y a une sorte de communion, de groupe, etc. Mais dans la louange, moi, si je vois ça dans une église, je me dis, attends, ils n'ont pas compris. Le but de la louange, ce n'est pas juste de faire répéter aux gens des trucs, puis faire comme toi, tu as envie, puis de te faire plaisir en répétant. Moi, si les gens ne font pas ce que moi je fais, ça ne me gêne pas. Je ne leur demande pas de me copier. Je ne demande pas de me suivre. Je leur demande de se connecter à Dieu. Il faut que je diminue et qu'il croisse. Et c'est un immense défi, parce qu'on est quand même devant, on a quand même un instrument, une sono, une voix qui porte, qui tire. Et il faut que cette voix soit vraiment au service de la vision qui est la louange. Et cet autre verset de Matthieu 3:3, où Jean-Baptiste cite, Jean est celui dont le prophète Ésaïe a parlé lorsqu'il a dit, un homme crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits. C'est Ésaïe 40 qui dit ça, préparez une route, préparez un chemin. En fait, la louange pour moi, c'est dérouler le tapis rouge. Il y a un chef d'État qui arrive à l'aéroport, on prépare bien son arrivée. Hein, il y a toutes sortes de personnes qui se préparent, qui déroulent le tapis, l'arrivée, etc. C'est là où viennent les photographes, les journalistes. Parce que la personne importante, c'est lui. On ne sait même pas qui a fait tout ce travail. Vous êtes d'accord? On se focalise juste sur la personne importante qui va arriver. Mais il y a plein de monde qui travaille pour ça. Et dans la louange, c'est un peu ça aussi, dans l'église. Il y a plein de monde qui travaille pour que Jésus vienne et prenne sa place, n'est-ce pas? C'est le travail aussi de la personne qui gère la salle, du concierge, du nettoyage, du président, de l'accueil, du pasteur. On est tous ensemble, il n'y a pas qu'une personne. Mais en fait, tous, c'est qu'on aimerait faire de la place pour le roi des rois et qu'il entre au milieu de nous, qu'il nous visite, qu'il nous parle et qu'on l'entende et qu'on l'écoute et qu'on le suive. Et à ce moment-là, il peut parler, que ce soit dans la louange, dans le message, dans les communions, etc. Et donc Dieu... Jean-Baptiste, pardon, c'est vraiment un excellent modèle pour nous, pour la louange. Il dit encore Jean 1, 27, « Celui qui vient après moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Pourtant, il avait du succès, Jean-Baptiste. Les gens, ils allaient même jusque dans le désert pour le voir. Il ne faisait pas de pub. Il se cachait, il fuyait et les gens le suivaient. Mais il n'a pas joué là-dessus. Il n'a pas utilisé son onction, son aura, sa réputation. Il a continué de garder son cœur bien aligné à sa mission. Sa mission, c'était préparer le chemin de Jésus. Et ça, pour moi, c'est un des meilleurs modèles de la louange. La louange, c'est pas se mettre en avant, c'est pas prendre une place, mais c'est servir Dieu déjà et lui laisser le maximum de place. Et c'est pas si facile. Il faut continuellement se remettre en question. Est-ce que j'ai pris trop de place ? Peut-être qu'il faut écouter les uns les autres, s'écouter les uns les autres, son mari, sa femme, son pasteur, ses amis, ses anciens, de temps en temps débriefer. Comment vous avez vécu le moment de louange? Comment est-ce qu'on a pris trop de place ou pas? Et c'est pas évident toujours de se remettre en question par rapport à ça, mais prenez cet exemple-là. Et puis bien sûr Paul dans la Bible, on voit bien que c'est pas un musicien non plus, c'est pas un chanteur, et pourtant Acte 16. Paul est en prison avec Silas et dans la prison, alors qu'ils sont en prison à cause d'avoir servi Dieu, prêché l'évangile, prié pour les gens, ils ont vraiment servi Dieu. Et la conséquence, c'est une situation terrible. Ils ont été battus, frappés, jetés en prison. Et des fois dans nos vies, quand il y a des réactions à notre pratique chrétienne ou à notre vie chrétienne, on se dit, mais Seigneur, pourquoi? C'est pas juste. Paul, il aurait pu vraiment se plaindre. Seigneur, quand même, je te sers, quoi. Je suis fidèle, je me bats pour ton évangile. Puis voilà tout ce que tu me donnes. Il aurait pu râler, quoi. Ou commencer la réunion d'intercession et de combat spirituel. Seigneur, sors-nous de cette prison. Fais un miracle, secoue les murs. Des prières intenses. Non, il loue Dieu. Il discute pas, il pose pas de questions. Il intercède même pas, il loue Dieu. Et c'est là qu'on voit la puissance de la louange, puisque Dieu intervient. Et avant même qu'ils aient fini la réunion de louange, avant qu'ils commencent à intercéder, avant qu'ils fassent autre chose, Dieu est intervenu d'une manière miraculeuse. Mais il a fallu garder la foi dans ces circonstances compliquées. Et c'est ça qui est difficile parfois pour nous. Hein. Louer Dieu, même quand il y a de l'opposition, quand on n'a pas le résultat escompté, quand on n'est pas encore dans la victoire, c'est compliqué, mais ça porte un fruit beaucoup plus grand. Ça porte un fruit. Parce que notre situation est tellement loin de cette réalité, de cette communion avec Dieu, que quand on amène cette présence de Dieu dans cette situation-là, ça nous rapproche et ça nous permet de nous reconnecter et puis mettre Dieu dans cette situation-là. Et c'est ça qui va nourrir une louange qui va être plus forte, plus puissante dans l'Église aussi. Je crois que l'Église n'est pas impressionnée forcément par les gens qui ont du succès, du talent, et pour qui tout va bien. Mais quelqu'un qui a des défis, des difficultés, qui est là, qui est en train de servir et de louer Dieu, dit « Waouh, Ah, le frère, là, on sait que c'est difficile, il a perdu son travail, sa femme est malade, mais il est fidèle, il continue de louer Dieu. Waouh! Juste ça, ça nous touche. Au-delà de n'importe quel chant qu'il peut chanter, vous êtes d'accord? Hein? Sa vie est une louange. Son témoignage est une louange. Donc pour nous, le modèle, c'est aussi ça. On est des modèles dans toute notre vie, dans tout ce qu'on est. Pas juste dans ce qu'on fait, mais beaucoup plus dans ce qu'on est. Et ça aussi, c'est un des pièges, c'est que avec la société dans laquelle on est beaucoup dans la performance, dans ce qui se voit, dans ce qui s'entend. T'as entendu le truc? T'as vu ce truc sur YouTube? Tiens, regarde, je t'envoie vite là. Puis regarde plein de choses. Moi aussi, hein, comme vous, je regarde, c'est pas grave. Mais après, de quoi? Est-ce qu'on se nourrit constamment de ça? Et puis comment on réagit par rapport à ça? Est-ce qu'on se fait des complexes? Ah, si seulement je pouvais chanter comme ça, ou être comme ça, ou m'habiller comme ça. Ou... Non. Soyons nous-mêmes avec ce que Dieu nous a donné et adorons Dieu dans toutes les circonstances. Et comme ça, on va être des modèles aussi pour d'autres. Parce que le but de Dieu, c'est aussi ça. C'est pas seulement qu'on ait des modèles, mais que nous, on devienne des modèles. Des modèles pour nos proches, pour notre famille, mais aussi pour l'Église et même en dehors de l'Église. Les gens puissent voir en nous un adorateur. Ah, mais toi, tu fais pas comme tout le monde. Pourquoi? Parce que j'aime Dieu. Ah bon, toi, Dieu, il existe, etc. Puis ça nous amène dans l'évangélisation automatiquement. Une louange profonde, réelle, nous amène automatiquement dans l'évangélisation. Parce que ça nous positionne dans qui est-ce que je sers, qui est-ce que je suis. Alors moi, j'en rencontre des gens qui disent, ah, tu fais quoi? Alors je leur explique, je fais de la louange, c'est quoi, tout ça. Je dois leur expliquer, oui, mais je... Ah bon, tu fais ça tout le temps? Ah bon, c'est possible? Ah bon. Même un chrétien qui m'a demandé une fois, t'en as pas marre de faire la louange? Je dis, ben non. Toi, t'en as marre? Ouais, mais des fois, tu vois. Bon. Si c'est pas de la vraie louange, automatiquement, si c'est un rituel religieux, ça peut être ennuyeux. Mais si t'as une communion avec Dieu, ça doit augmenter. Il y a un psaume qui dit « Je le louerai de plus en plus » ou « Encore et encore ». Donc, il ne me semble pas que la louange doit diminuer. Elle devrait grandir dans nos vies à mesure qu'on grandit avec Dieu. On doit avoir plus d'envie de nous approcher de Dieu, de prier, de louer et puis surtout de nous préparer à la louange du ciel qui sera continuelle. Mais ça sera mieux que sur terre. Hein? Des fois, il y a des gens qui comparent la louange de leur église avec celle du ciel. Ils disent « Oh, si ça sera comme ça, oh, oh. » Mais ça sera encore beaucoup mieux. Puis heureusement, on a des fois des moments sur terre qui sont beaux, qui sont forts, où on est touché. Mais c'est peut-être pas tout le temps. Mais voilà. Mais ces meilleurs moments qu'on a sur terre, ben dans le ciel, ça sera encore beaucoup mieux que les meilleurs moments qu'on a sur terre. Ben, ça sera parfait. Ça sera bon, on sera bien, on sera au bon endroit, et puis ça sera puissant, quoi. Donc, il y a beaucoup de modèles, mais j'aimerais vraiment vous encourager à pas chercher des modèles humains, pas chercher des modèles musicaux. Et chercher des modèles spirituels. Moi, un de mes premiers modèles, c'était mon responsable du groupe de jeunes. J'ai aidé dans un groupe de jeunes un gars qui avait vraiment le feu pour Dieu, qui aimait, il avait une dizaine d'années de plus que nous, il s'était converti plus tard, mais du coup, il venait d'une famille, puis il était dans l'alcoolisme, etc. Donc, il y a eu une conversion radicale, et du coup, il aimait louer Dieu, mais il n'était pas un musicien, ni un chanteur, mais il était au premier rang, il dit, allez, on y va à la louange, on va chanter. Et puis, quand tu commençais en tant que musicien, c'était le premier à entrer dans la louange, à dynamiser cette louange. Du coup, ça attirait comme la louange de moi. Hein? Quelqu'un qui a envie de louer, ça t'inspire dans la louange. Donc, quand vous êtes dans la salle, vous pouvez aussi changer l'esprit de la louange. Ça ne dépend pas que du groupe de louange. Vous êtes d'accord? Hein? Pour avoir un super groupe qui est super au point, qui chante bien, qui connaît tous ses chants, mais si les gens sont apathiques, fatigués et qu'ils n'ont pas envie, c'est difficile. Hein? Puis des fois, pour avoir un groupe misérable, avec une voix plus ou moins tremblotante, mais une église qui est réveillée, qui a envie de louer, et puis ça se passe très bien. Donc, ne mettez pas toute la faute, si on peut dire ainsi, ou la responsabilité sur le style, la musique, la sono, les gens. C'est un tout. C'est un tout. Et pour terminer, je dirais, c'est vrai que dans l'Apocalypse, on voit, c'est une foule nombreuse qui loue Dieu. Et si je dois donner un critère du succès de la louange, j'aime pas aussi ce mot, mais du bien vécu de la louange, ça serait quand toute la salle adore. Jusqu'au fond, jusqu'au dernier rang, même la personne qui se met toujours au fond parce qu'elle n'a pas trop envie de s'impliquer, quand elle est touchée, qu'elle se met à chanter tout son cœur et à participer, je dis waouh, là, Dieu est à l'œuvre. Et Dieu est en train de toucher les gens. Et c'est ça le critère. Ce n'est pas celui qui est toujours devant, puis que de toute façon, il sait qu'il va chanter, puis qu'il aime, et puis qu'il prend toute la place, qu'il chante fort, qu'il crie, qu'il lève les mains. C'est très bien. Mais il ne faut pas qu'il y ait que ces gens-là. Il faut qu'il y ait toute la salle qui soit touchée. Et même encore, quand il y a un bon esprit de louange, je vois même des païens ou des gens qui connaissent très peu Dieu, qui sont interpellés, parce qu'ils sentent qu'il se passe quelque chose. Ils n'arrivent pas à l'expliquer. Un gars qui est venu une fois, il dit, oh, il y a une bonne vibration ici. Utilise les mots qu'ils connaissent dans leur monde. Hein. Mais voilà, il se passe quelque chose, parce que Dieu les touche et Dieu les rencontre. Alors, ça m'amène au dernier point avant la pause de midi. Le cœur de l'adoration. C'est pour ça que j'ai écrit ce troisième livre. J'ai écrit trois livres sur la louange. Depuis le temps, j'ai commencé mon premier livre quand j'ai démarré, qui s'appelle « Vive la louange ». Ça donne les bases de la louange. J'ai fait une étude poussée de la louange dans la Bible, des mots de la louange, qu'est-ce que ça veut dire chaque mot, chaque terme. Puis ensuite, l'organisation de la louange. Surtout, c'était en 1990. Après, je l'ai révisé en l'an 2000, puis j'ai rajouté pas mal de choses. Mais ça a quand même donné une base à beaucoup, beaucoup de groupes de louange pour organiser les choses. Puis après, j'allais dans les églises et plein de gens disaient « Ah, moi, je ne suis pas dans la louange, donc ce n'est pas pour moi. » Je dis « Comment tu n'es pas dans la louange ?» Comme si la louange était réservée à des gens, quoi. Je dis « Mais la louange, c'est pour tous les chrétiens, non ?»« Ouais, mais tu vois, moi, je ne chante pas, je ne joue pas. » Je dis « Mais on est tous appelés à aimer Dieu. »« Ouais, tu crois ?» Donc, j'ai écrit mon deuxième livre, qui s'appelle « Aimer Dieu, la véritable adoration. » Donc, on est tous appelés à être des chrétiens qui adorent, même si on n'est pas dans le groupe de louange. Et je parle de la relation avec Dieu, etc. Et puis, le troisième livre que j'ai écrit il y a 4-5 ans, « Revenir au cœur de l'adoration. » Avant la louange, c'était un combat. Je devais me battre des fois avec certains, pas physiquement, mais pour trouver... est-ce qu'on peut avoir 15 minutes de louange? Ouais, bon, deux chants, c'est bon, hein, ça suffit. Peut-être trois, bon, trois chants, d'accord, ok. Et puis maintenant, la louange, elle est arrivée, elle est activée, elle est ouverte dans beaucoup d'églises, on laisse pas mal de place, beaucoup de musiciens, mais il y a toutes sortes de louanges. Il y a des choses même qu'on appelle louanges qui, pour moi, ne sont pas de la louange. Ou c'est du divertissement, c'est de la musique, toutes sortes de choses, mais ce n'est pas vraiment une communion avec Dieu. Donc j'essaie de recentrer les choses et de dire revenir au cœur de l'adoration. Revenir au cœur. Pourquoi on fait de l'adoration? Pourquoi on fait la louange? Est-ce que justement on veut divertir les gens? Est-ce qu'on veut juste faire un programme pour avoir des membres? Ou est-ce qu'on est vraiment à la place où Dieu veut qu'on soit? Donc la première chose, c'est que l'adoration, ce n'est pas pour nous. C'est pour Dieu. C'est simple, mais c'est fondamental. Parce que quand les gens me disent « Ouais, j'ai pas aimé, j'ai aimé, etc. » Je dis « C'est pas grave. Dieu, c'est pour lui. » Donc tu peux pas dire... C'est comme, je pense à cette image-là, si vous avez tous été à Noël, vous avez vu des gens qui faisaient des cadeaux à Noël, vous êtes là, spectateur, c'est pas pour vous le cadeau. Il y a quelqu'un, il y a la tante Jeanne qui offre un cadeau au neveu Georges. Hein. Elle prépare un beau cadeau, un beau paquet, puis lui il reçoit, puis vous regardez ça, vous dites « Mais c'est quoi ce cadeau ? C'est bizarre. Mais elle lui donne ça ? Mais moi j'aurais jamais fait ça. » Puis t'as Georges qui ouvre, puis dit « Wow, merci tante Jeanne, c'est super, je suis content. » Donc, celle qui a donné, elle est contente. Celui qui a reçu, il est content. Puis toi, tu n'es pas content. Tant pis, ce n'est pas pour toi. Ça ne te concerne pas. Non, vous êtes d'accord, hein? Mais avec Dieu, des fois, on fait ça, quoi. Mais comment ça se fait qu'il donne ça à Dieu? Puis Dieu, je pense que Dieu, il ne doit pas être content. Hein. Alors que Dieu, il reçoit la louange. Beaucoup plus que nous. Il ne la critique pas. Parce que Dieu, il connaît la vie de chacun. Il sait la réalité de chacun. Il sait si lui, il a le moyen de lui faire un grand cadeau, en gros ou en petit. Peu importe la grosseur, la grandeur, la taille. Ce qui compte, c'est la relation. J'ai aussi bien compris ça dans la relation avec mes propres enfants. Vous savez, les enfants, comment ils sont, selon leur âge. Je me souviens de Siméon, mon deuxième, il aimait très artiste, il aimait bien dessiner. À 4-5 ans, il faisait des dessins. J'étais à mon bureau, je travaille, tout d'un coup, il arrive, il me tire la manche et puis il me donne un dessin. Et sur ce dessin-là, c'est quoi? C'est un bonhomme avec une grosse tête comme ça, un petit corps, deux petits pieds, deux mains, puis un grand sourire, deux petits cheveux, puis il me le donne, puis il me regarde. Puis je fais quoi?
C'est quoi ce truc-là? Mais c'est quoi la grosse tête, là?
Tu connais pas les proportions? Non, je suis un papa. Qu'est-ce que je fais? Je dis, waouh, merci Siméon. Puis en plus, il dit, c'est toi, papa. Mais je le prends et je l'accroche sur mon bureau. Je trouve ces dessins magnifiques. Pourquoi? Parce que c'est mon fils, parce qu'il y a une relation. Si c'est n'importe qui me le donne, je n'ai peut-être pas la même réaction. Vous êtes d'accord? Mais là, à cause de la relation, j'accepte ce dessin, je l'aime. et je le valorise, et je le remercie, et je l'embrasse. Donc il y a une relation qui se tisse, ou qui se transmet par cet exemple-là. Donc il vaut ce qu'il vaut, mais avec Dieu c'est la même chose. Quand on donne notre dessein à Dieu, notre petit chant, notre petite offrande, c'est peut-être ridicule par rapport à un grand artiste, par rapport à un Van Gogh, un Monet, ou je ne sais quel artiste, mais en même temps, pour la personne qui donne et pour celui qui reçoit, il y a un échange, il y a un partage. Celui qui donne, il est béni, il est content, et celui qui reçoit aussi. Donc, ne jugeons pas la louange à notre façon. Et sachez que c'est pour Dieu. Ce n'est pas pour vous. Donc, si vous faites la louange 10 fois à l'église, puis qu'il n'y a personne qui vient vous dire « Bravo, tu as bien chanté, c'était super », ce n'est pas grave. Ça, c'est notre côté humain qui, des fois, « Ouais, quand même, on pourrait quand même me remercier hein, pour moi. » Ben oui, peut-être, puis peut-être pas. Mais si vous le faites vraiment pour Dieu, peut-être même qu'il y aura des périodes où Dieu va exprès vous tester comme ça. Mais à part ça, je dis, c'est quand même bien d'encourager les frères et les sœurs. Donc, allez remercier les gens. Pas les féliciter sur leurs dons, mais merci d'avoir servi. Merci pour ton service de louange. Merci pour ton service dans l'église. Sois béni, je prie pour toi, etc. Oui, il faut s'encourager les uns les autres. Mais si ça n'arrive pas, vous savez que c'est pour Dieu. Et puis que Dieu, il vous a béni, il vous a déjà donné son fils, il vous a déjà donné toutes les bénédictions, donc vous faites ça pour Dieu et c'est déjà bon, c'est déjà juste. Ensuite, l'essentiel dans cette adoration, c'est de vivre quelque chose avec Dieu, de vivre une relation, donc je dirais rechercher la présence de Dieu et rester dans la présence de Dieu. Ça, c'est un immense défi. Parce que des fois, on se connecte à Dieu, on dit « Ah oui, Dieu est là !» Et puis, à peine on a capté ça, on s'en va, quoi. On s'éloigne. Mais prenez votre temps. Dieu n'est pas pressé. Et des fois, il faut se laisser un petit peu d'espace, de marge. Et cet espace-là, c'est aussi pendant ce qu'on appelle le moment de louange, pas tout remplir. N'ayez pas peur d'un moment d'écoute ou de silence, ou juste musical, tranquille. Pas besoin de refaire toujours le troisième couplet, le refrain, couplet, refrain, chant suivant, prière, prière, couplet, refrain, tac, boum, c'est fini. Moi, je suis assez organisé, j'aime bien les choses aussi, et là, ça suit, etc. Alors, j'ai 30 minutes, j'ai 5 chants, tellement. Mais des fois, je dis, laisse tomber ce chant, attends. Mais pourtant, on l'a répété. Les musiciens, ils aimeraient bien le chanter, ils aiment bien ce chant. C'est pas grave. Tout ce que vous avez répété, travaillé, ça sera utile pour une autre fois. C'est jamais perdu. Des fois, je répète des chants et je ne le chante pas. Des fois, je prépare un chant, je travaille. Ah, ce chant vraiment pour dimanche, on va le travailler, on va l'écouter, on va. Puis on ne chante même pas. Mais il sortira une autre fois. C'est une préparation. Ça a préparé mon propre cœur. Parce que la répétition, moi, j'aime aussi la vivre comme un vrai temps de louange, pas juste comme un travail d'exercice. Pendant la répétition, déjà, on répète, mais on prie, on loue. On dit, OK, on va prier pour le culte de dimanche, on va déjà bénir l'assemblée. On est déjà dans une démarche spirituelle, pas que dans une démarche technique. Et la répétition, ce n'est pas juste le dimanche matin à 9h30. Je ne sais pas à quelle heure vous voyez. Une fois, peut-être que je lance un pavé dans la mare. Mais si vous arrivez, prenez le temps de vous voir à un autre moment que le dimanche matin.
Je n'ai pas
venu
il y a 20 ans.
Ben voilà, ben c'est bien. Ça évolue. Mais peut-être qu'il y a 20 ans, je faisais aussi comme ça. Donc voilà, on évolue tous. Mais au début, moi, je venais au culte. Le culte commençait à 10h. J'arrivais 10h moins 5. Puis j'attendais que le pasteur me donne les numéros. C'est tout. Ce n'était pas plus compliqué que ça. Après, on a commencé à venir à 9h30, après à 9h, des fois maintenant je viens à 8h30. Et puis en plus, on répète en semaine. Mais le dimanche matin, il y a le stress du culte, de l'arrivée, de la technique, de la sono, de la mise en place. Ce n'est pas là où on est disponible pour vraiment apprendre les chants et répéter. Donc répétez à un autre moment. Et justement, si vous voyez un autre moment, vous pouvez aussi avoir le temps de prier ensemble, de vous bénir, de partager vos défis, dire « Ah, cette semaine, c'était compliqué, j'ai eu ça au boulot, je ne sais pas si ça va aller pour dimanche, ok, ben on va t'encourager, on va prier pour toi. » Et puis on se soutient, quoi. On vit ça comme une famille, comme un corps. J'aimerais vraiment vous encourager. C'est comme ça aussi que la louange, elle prend de l'ampleur, elle se développe, parce qu'on prend le temps de progresser. C'est sûr que si on fait toujours la même chose, on est sûr qu'on ne va pas avoir de différence. Parce qu'on ne se donne pas les moyens d'aller plus loin. Et venir au cœur, de chercher sa présence de Dieu, ça demande un petit peu d'effort, de recherche et de travail pour y arriver, quoi. Donc, pour rester dans cette présence de Dieu, c'est aussi apprendre à ne pas sortir. Dans beaucoup d'églises, on dit « On va entrer dans la présence de Dieu ». Je dis « Ok, pourquoi vous entrez ? C'est parce que vous êtes sortis. Si vous n'étiez pas sortis, vous n'auriez pas besoin d'entrer. Bien sûr que c'est un exemple biblique. C'est dans un psaume, il dit « J'entrerai dans tes portes ». Donc on prend cet exemple-là, parce qu'en Israël, ils étaient à la maison, ils allaient au temple et ils commençaient à entrer dans les portes. Alors c'est une bonne image, mais en même temps, il y a aussi un autre texte qui dit « Je suis dans la joie » quand on me dit « Allons à la maison ». Donc il y avait déjà de la joie avant. Du temps du chemin, il faisait peut-être 3 jours de marche, ils chantaient déjà, ils louaient déjà. Et au moment d'entrer, ils étaient déjà dans la louange. Et je suis sûr que vous avez tous fait l'expérience que quand on est préparé, la louange est beaucoup plus facile. Mais si on arrive stressé le dimanche matin et qu'on s'est fâché avec son mari ou ses enfants et puis qu'on est arrivé tout tendu, c'est pas évident de démarrer la louange comme ça. Parce qu'on est dans un autre état d'esprit. Donc si on se prépare, on prépare nos cœurs, puis pas juste dimanche. Ah, aujourd'hui c'est mon jour de louange, il faut que je sois... Non. Le samedi, le vendredi, la semaine. Si cette communion avec Dieu, on la vit régulièrement, c'est beaucoup plus simple. Et du coup, on peut aussi transmettre ça à l'Église. Mais on a tous des moments de combat difficiles, des moments où on s'éloigne, plus ou moins proche, mais on aspire au moins à ça. Hein? Demeurer dans la présence. J'aime bien tous ces textes des psaumes qui nous parlent de demeurer en Dieu. Rester de sa présence. Donc, chaque prochaine fois que vous lisez « Je demeure dans tes parvis », pensez à ça. Je ne veux pas sortir. Même si je sors de l'église, du bâtiment église, Dieu m'accompagne toujours. Dieu est toujours là. Mon cœur reste attaché à Dieu. Dieu n'est pas là que dans le bâtiment. C'est juste une manière de se retrouver, de partager notre foi, mais on le vit aussi en dehors. Donc, le cœur de la louange, c'est cette communion qu'on a avec Dieu et qu'on peut avoir en toutes circonstances. Et c'est ce à quoi j'aspire, ce à quoi j'encourage l'Église à développer, à rechercher. Pas la performance, pas le résultat, pas le succès, mais la communion en toutes circonstances qui se transmet et qui reste après et avant. Donc, vous connaissez tous ce texte de Jean 4, 21. C'est le texte fondamental aussi du Nouveau Testament où Jésus enseigne à la femme samaritaine. Il dit « Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ça, c'est le verset fondamental qui va nous donner une base fondamentale. Cette femme, elle rencontre Jésus par hasard. C'est plutôt Jésus qui savait qu'il devait lui parler, mais il va la voir. Cette femme, elle est loin de Dieu. Elle n'est pas juive, elle est samaritaine, étrangère. Elle vient au puits à midi, au moment où il n'y a personne, pour être sûre de rencontrer personne, parce qu'elle est rejetée par tout le monde. Et puis Jésus lui parle, il parle de l'eau d'abord, puis ensuite il la connecte, et puis il lui dit, oui, c'est bon, va chercher ton mari. Puis il dit, non, je n'ai pas de mari. Puis Jésus lui dit, ok, je sais, tu as eu 5 maris, et l'homme avec lequel tu vis n'est pas ton mari. Donc, parole de connaissance par le Saint-Esprit, il révèle sa vie en une phrase. Cette femme dit, waouh, je vois que tu es prophète. Elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus ne se promène pas avec un badge rouge, Jésus, fils de Dieu, miracle, etc., parole, non. Il était normal. Et dans sa vie quotidienne, il parle avec les gens. Et cette femme est interpellée, puis dit, ah, toi tu es un prophète, alors j'ai une question. Pas si vous avez des fois des questions quand vous rencontrez un homme de Dieu, que vous admirez, quelqu'un qui a de l'expérience, dites, je vais lui demander. Ou bien il y en a qui disent, quand je serai au ciel, je demanderai à Moïse pourquoi, ou à Abraham. Hein. On a tous des questions comme ça. Puis Noé, comment tu as fait pour nourrir tous les animaux? Bon. Alors, cette femme, elle dit, je vois que tu es prophète. Nos ancêtres, les Samaritains, ont adoré Dieu sur cette montagne là-bas. Puis vous, les Juifs, vous dites qu'il faut aller à Jérusalem. C'est qui a raison? En fait, elle a une grande question pratique, très pratique. Elle voit qu'il y a une division à cause de la louange. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Il y a des églises qui se divisent à cause de la louange. Il y en a qui disent, non, c'est comme ça qu'il faut louer. Non, c'est comme ça. Non, c'est comme ça. C'est comme ça. Bon, ok. Nous, on va ici, vous allez là. Les Samaritains, sur la montagne, le mont Morija, là où il y a eu les sacrifices de nos pères, les ancêtres. On a toujours fait comme ça depuis 500 ans. Quand même, c'est là l'endroit saint. Puis les Juifs, non, mais nous, Dieu nous a donné la vision du temple. Avec David, Salomon, on a construit un temple moderne. Ça brille, il y a de la sono, les instruments. Ça, c'est beau. Ça, c'est dépassé, votre truc, là. Laissez tomber. Puis cette femme dit, mais pourtant, c'est tous des chrétiens. C'est tous des gens qui veulent suivre Dieu. Et puis, ils ne sont pas d'accord. Alors, il faut faire comment? Puis c'est là où Jésus répond à cette question. Crois-moi, le moment vient où ça ne sera ni sur la montagne, ni à Jérusalem. Jésus dit, en fait, le lieu, ce n'est pas un problème. Le style, ce n'est pas un problème. Le genre, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas ça. sur lequel il faut se focaliser. Nous, on se focalise toujours sur la forme. Puis on passe à côté. Les vrais adorateurs, ça veut dire qu'il y a des faux adorateurs ou des mauvais adorateurs. Les vrais adorateurs adoreront, et il dit trois choses, le Père, en esprit et en vérité. Ça, c'est un fondement incroyable. D'abord, un adorateur, il adore le Père. Il est en connexion, en communion avec une personne. Il n'adore pas une statue, il n'adore pas un truc vague, il n'adore pas une religion, un système, il adore une personne, Dieu le Père qui s'est révélé. Donc, ça aussi, dans l'Église, encourageons les gens à se connecter au Père, à Dieu le Père, ce Abba Père, ce Dieu Père qui nous connaît, qui nous aime, qui nous sommes les enfants. Puis ensuite, comment ? En esprit, en vérité. Il ne dit pas avec un orgue ou avec une guitare, avec une batterie ou avec un tambourin. Avec cet instrument ou c'est pas cet instrument ? Nous, pendant toute l'histoire de l'Église, on s'est bagarré pour des styles, pour des genres, pour des musiques, alors que Dieu dit, mais non, la plus importante, ce n'est pas la musique, c'est le Père en esprit, en vérité. En esprit, ça veut dire quoi ? Ça veut dire avec la communion avec l'Esprit de Dieu. C'est une dimension spirituelle. L'adoration, c'est spirituel. Ce n'est pas émotionnel, c'est spirituel. Ça veut dire que l'Esprit, il t'inspire des choses que tu n'avais peut-être pas prévues, qui vont au-delà de tes émotions. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais moi, quand je prie, je n'ai pas préparé toute ma prière, je ne l'ai pas écrite dans mon cerveau, je n'ai pas un papier que je lis. C'est l'Esprit qui tire de mon cœur, de mon esprit, une prière. Et j'ouvre ma bouche, je sais que je vais m'adresser à Dieu, mais tout d'un coup, les mots s'enchaînent parce que l'Esprit m'inspire. C'est cette communion avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas mon intelligence, ce n'est pas mon raisonnement. Et en français, on a des fois une confusion entre l'esprit, parce que chez les philosophes, ils parlent de l'esprit comme la pensée, le raisonnement. Mais l'esprit de Dieu dans la Bible, ce n'est pas le raisonnement, ce n'est pas la pensée, ce n'est pas l'esprit humain, c'est le côté spirituel. Donc c'est spirituel d'adorer. Puis ensuite, en vérité. Pour les Juifs, la vérité, c'est aussi très différent des Français, des francophones, ce n'est pas une philosophie. Nous, on a la vérité avec la pensée des philosophes français, des siècles des Lumières. La vérité, c'est une philosophie. C'est-à-dire, je crois à certaines choses que j'ai expliquées dans un livre, mais je ne les applique pas forcément. C'est une théorie. Alors que pour un juif, quelque chose qu'il croit, il l'applique. Aujourd'hui, on arrive à un tel extrême que la plupart des gens qui sont même en politique ou en gouvernement, ou dans toutes sortes de systèmes, ils disent « Ouais, mais ça, c'est ma vie privée, ça ne vous regarde pas. » Donc, je vous dis des choses, mais je ne les fais pas. Il n'y a aucun lien. C'est autre chose. Mais ce que je vous dis, c'est important. Alors que Jésus et la Bible et les Juifs, ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils font. Ou ce qu'ils font, c'est ce qu'ils disent. C'était complètement lié dans la culture juive. Et ça, c'est dans la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est que tu ne peux pas séparer tes actions de tes pensées. Tes pensées ont des influences sur tes actions. Donc, adorer Dieu en vérité, c'est dire, je te donne ma vie dimanche, puis lundi, oh ben, je fais ma vie tout seul. Puis on verra dimanche prochain si je lui redonne ma vie ou pas. Puis on vit la semaine sans Dieu, puis on essaie de vivre le dimanche avec Dieu. Ça ne marche pas, vous êtes d'accord? Ça ne fonctionne pas. Et il y a eu trop d'exemples dans nos églises où on a justement fait une séparation. Et quand il y a une séparation, ça amène toujours un désastre à un moment donné. Il faut qu'on soit tout à Dieu tout le temps. C'est pas facile. Il y a des combats, il y a des choses qui sont contraires à l'évangile dans nos vies et puis dans notre réalité. Et puis on doit se battre pour justement redonner tout à Dieu. C'est pour ça qu'on chante beaucoup de choses. Mais attention à ce qu'on chante. Parce que quand on chante, on s'engage. Et des fois, c'est très facile de chanter. La musique est sympa. Les paroles sont belles. Les chanteurs sont très beaux. Ils chantent bien. Je te donne ma vie. Entre tes mains, j'abandonne tout. Puis lundi matin, Dieu dit, ah, tu m'as dit que tu m'abandonnais tout. C'est super. Tu es d'accord alors? Puis lundi, ouais, attends, je vais réfléchir. Mais pourtant, t'as chanté. Et puis là, ça nous remet en question. Vous êtes d'accord? Ce qu'on chante devrait nous remettre en question. Mais n'oublions pas que si on chante de tout notre cœur, on est en train d'adorer en vérité et que ça nous engage. Alors que le Seigneur nous aide. Il ne faut pas le prendre de manière légaliste et puis culpabilisante, dire « alors mais du coup j'arrête de chanter, je ne peux plus rien dire ». Non, mais quand je chante, je réfléchis à ce que je chante et je pense et je dis « ok, je m'engage à vivre dans ce chemin de vérité. Seigneur, aide-moi parce que je n'y arriverai pas tout seul ». Donc les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit, en vérité. C'est ça le cœur profond, fondamental de la louange. Je termine par la prière. Seigneur, merci de nous aider parce qu'on est tous devant des défis immenses dans nos vies, de vivre dans cette vérité, d'être communion avec ton esprit, Seigneur. Aide-nous à être dans cet esprit de louange que tu nous as enseigné, à t'adorer toi, Père, et à rester dans l'esprit de la vérité. Enlève de nous tout ce qui est habitude, religiosité, système humain pour qu'on puisse rester connecté à ton cœur. Amen. Amen. Alors, si jamais vous voulez creuser le sujet, j'ai quelques livres ici pour ceux qui voudraient aller plus loin et puis approfondir. Merci. Je laisse la parole pour les choses pratiques à Jacques. On est d'accord. Pour que les gens se rapprochent de lui et puis le laissent agir dans la louange. Donc, ce que j'ai constaté, c'est que j'ai vu des gens se convertir dans la louange. Une fille qui est venue une soirée de louange à Neuchâtel, je me souviens très bien, on avait des soirées avec Jeunesse en Mission. Tous les mois, il y avait 1000 personnes au Temple du Bas, une super salle, c'était magnifique. Et toutes les églises venaient, ils invitaient leurs amis. Et puis une fille, elle était aux études là-bas, puis sa copine dit, viens à la soirée de louange. Je dis, c'est quoi? Ben viens, tu verras. Bon, elle est venue, elle a suivi sa copine. Elle était là, 1000 personnes qui l'audient, elle n'avait jamais vu ça. Ça l'a touchée. Il y a eu un message, un appel, elle s'est avancée à l'appel. Elle dit, je ne me souviens même plus du prédicateur, je ne me souviens pas ce qu'il a dit, mais la présence de Dieu dans la louange m'a tellement touchée que je n'ai pas pu ne pas... Puis maintenant, c'est une fille qui engage avec Dieu, qui sert Dieu, qui est à fond, quoi. Donc, ça m'a vraiment beaucoup parlé. Elle dit, ben, Dieu, il est plus grand que nos systèmes, nos programmes, etc. Puis que notre responsabilité, déjà, c'est de nous tourner vers Dieu, puis d'inviter des gens à faire de même. Et notre louange devient, comme je l'ai dit ce matin, un modèle, un exemple. Alors, un païen, vraiment païen, qui débarque dans une soirée de louange, comme cette fille, qui connaît rien à rien, il a deux réactions. Soit il dit, ils sont tous fous, c'est une secte, je m'en vais. C'est vrai, il peut penser ça. Si vraiment il débarque, hein, mais j'ai jamais vu ça, des gens qui lèvent les mains, des gens qui crient fort, qui dansent, qui bougent, c'est bizarre ce truc. Ou, waouh, mais qu'est-ce qu'ils font tous ces gens? Ils s'adressent à qui? Ils parlent à qui? Tous ces gens, ces paroles. Mais Dieu existe? Où j'en suis avec Dieu? Qui est Dieu? Qui suis-je? Et puis, ça l'interpelle dans sa foi, dans sa position. Parce que la louange t'oblige à te positionner. Tu ne peux plus être neutre, en fait. Tu ne peux pas être neutre dans la louange. C'est un problème pour les Suisses, ça. La neutralité n'existe pas. C'est soit tu es pour, soit tu es contre. Soit tu loues Dieu, puis du coup, ben, tu es dedans. Soit tu fais la grève, la louange, puis tu résistes à Dieu. Mais c'est difficile de résister quand il y a une foule qui loue Dieu. Alors, tu peux résister, puisque Dieu nous laisse libres. Donc, il y aura toujours cette liberté du choix, mais la louange amène un état d'esprit, une présence de Dieu qui interpelle les gens. Et je pense que dans la société d'aujourd'hui, dans la vie des gens, ils sont plus touchés justement par le vécu que par une réflexion intellectuelle. Après, ils vont réfléchir, ils vont peut-être lire des livres, se poser des questions, mais ce fait d'avoir tout à coup une connexion possible avec Dieu, ça les interpelle. Puis de voir que des gens normaux comme eux, des jeunes, des plus âgés, sont en train de prier, de louer. Ah, peut-être que moi aussi, ou etc. Où est Dieu? Donc la louange, Dieu se sert de la louange pour se révéler finalement. En tout cas, c'est mon expérience dans ma vie, dans plein de situations. Donc je me suis trouvé même dans des situations de fête de la musique ou de situations non chrétiennes où Dieu m'a placé pour faire la louange. Puis au début, j'étais un peu mal à l'aise. Je disais, mais est-ce que je peux vraiment le faire? Puis finalement, je me suis dit, mais Seigneur, c'est toi qui m'as mis là, donc sers-toi de moi, mais moi, je me sens peut-être pas à la hauteur, mais je me mets à ta disposition. Alors, je donne un exemple, un gars m'a téléphoné, c'était en 2001, pour dire, ah, je suis un copain avec le programmateur du festival de jazz de Montreux, ils aimeraient un groupe de gospel, tu veux pas venir? Je dis, mais moi, je fais pas vraiment du gospel. Ouais, mais ce que tu fais, c'est bien. De toute façon, il y a déjà un groupe de gospel américain, mais il faut un autre groupe en première partie. Allez, viens, je leur ai dit, je vais parler de toi. Je dis, mais t'es sûr, vraiment, tu penses que moi... Oui, viens, je vais parler, en tout cas, il est prêt à vous engager. Bon. J'étais un peu surpris, surtout qu'il y a plein de groupes qui envoient leurs dossiers de presse, leurs CD, qui téléphonent, qui veulent absolument jouer au festival de Montreux, puis qu'ils en refusent des centaines de groupes, parce qu'ils ne peuvent pas mettre tout le monde. Mais là, sans que je demande rien, il y a une porte qui s'est ouverte. Puis j'ai dit, bon, ok, j'y vais, Dieu m'ouvre la porte, j'y vais. Et puis quand j'ai parlé de ça à certains de mes amis, ils m'ont dit, ah bon? Tu vas aller jouer à Montreux? Mais tu vas quand même pas aller faire de la louange là-bas? Je lui dis, tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je fasse moi, je me transforme en jazzman ou en chanteur? Non, je peux pas me transformer, je suis qui je suis. On m'a invité pour qui je suis, je vais aller chanter ce que je suis. Ouais, mais t'as pas peur? Je dis, ben, peur de quoi? Peur de qui? Les gens, ils payent 50 balles pour écouter la louange. Quel est le problème? L'habitude, les concerts chrétiens, c'est gratuit. Ma foi, là, ils ont payé pour un autre groupe peut-être plus célèbre. Nous, on fait juste la première partie, mais ils sont là. En plus, c'était sur un bateau, le gospel boat. Donc, une fois qu'ils sont sur le bateau, ils ne peuvent pas sortir. Hein. Si ça ne leur plaît pas, ils ne vont pas se jeter à l'eau. Hein. Donc, c'était vraiment la grosse surprise d'être là, dans cette situation-là. J'ai pris les meilleurs musiciens que je connaissais autour de moi. On a bien préparé, bien répété, mais on a fait de la louange. Et puis, il n'y a personne qui était dérangé, il n'y a personne qui est parti en courant, on était fâchés, peut-être qu'ils n'ont pas forcément apprécié, mais comme dans tout concert, quoi. Mais on était nous-mêmes à fond. On a loué Dieu, puis on a élevé son nom, puis on a chanté Jésus dans un festival de jazz, quoi. Mais il y avait une porte ouverte. Pourquoi refuser ou avoir peur? Donc, ce n'est pas que dans l'église. Et puis, je vois que depuis, je pense, une vingtaine d'années ou plus, la louange sort des murs aussi. Et c'est bon, et c'est juste, c'est ce que Dieu veut. Parce qu'on peut louer partout. Hein? Psaume 150, encore c'est ma référence, dit « Louez Dieu dans son sanctuaire, louez Dieu dans l'étendue où éclate sa puissance. » Donc partout. Partout. Vous pouvez louer Dieu, il n'y a pas de limite. En plein air, dans la nature. Donc c'est bien qu'on dépasse ces cadres-là, puis qu'on n'ait pas peur. Ce monde, il appartient à notre Dieu. On est les enfants de Dieu. Pourquoi on serait intimidé ou on se cacherait pour louer Dieu? Dans certains pays, ils sont obligés parce qu'ils sont persécutés, ils craignent pour leur vie. Mais même ces gens-là, ils vont au-delà de ces limites-là. Parce qu'ils ont tellement, ils sont tellement convaincus de leur foi en Dieu qu'ils osent le faire. J'ai été en Algérie deux fois. Vous savez qu'actuellement, il y a une grande persécution en Algérie. Disons, ça va encore, mais c'est-à-dire qu'ils ferment les églises. Parce qu'il y a eu un tel réveil parmi les Kabyles, spécialement en Algérie, que les chrétiens ont augmenté. Il y a eu plein d'églises. Et j'ai rencontré un des responsables des églises de maison. Il a dit jusqu'à l'an 2000, c'était que des églises de maison. On se cachait. On était des petits groupes de 5, 10 personnes. On se mettait dans les caves. Puis tout à coup, on a compris que Dieu nous disait de plus nous cacher. Donc on a demandé des autorisations. On a commencé à louer des salles. Et puis on a pris notre place. Mais ils ont été jusqu'au gouvernement, jusqu'aux Nations Unies, ils ont demandé, ils ont dit la liberté, les droits de l'homme, etc. Ils ont utilisé des outils de ce monde, mais ils sont positionnés. Et pendant presque 20 ans, il y a eu plein d'églises qui ont cru, qui ont grandi dans tout le pays. Mais maintenant, ça a pris tellement d'ampleur que le gouvernement a pris peur. C'est pour ça qu'ils ont tout fermé maintenant. Puis il y a une crise là-bas. Donc ils leur interdisent de se retrouver dans les églises. Ils ont mis des scellés sur les portes, etc. Il y a plein de vidéos qui circulent sur Internet. Mais un des chrétiens, il a écrit, il a dit, mais c'est une bénédiction parce que maintenant, on est obligé de ressortir. On ne peut plus rester dans nos murs. Mais ce n'est pas simple. Hein, c'est pas simple. Mais j'ai été dans une de ces églises, il y avait 500 personnes. Et pourtant, ils savaient qu'il y avait quand même la menace que les musulmans ne les autorisaient pas forcément ou bien qu'ils voudraient fermer l'église. Mais ils le faisaient. Ils disaient, on ne sait pas jusqu'à quand, mais on se retrouve et on loue Dieu. Et ils louaient Dieu, je peux vous dire qu'ils louaient Dieu. Hein. Ils chantaient, mais à fond, en kabyle, en arabe, en français. Et le responsable de la police de la ville, il venait là pour valider, il devait mettre un tampon chaque dimanche sur les réunions, etc. Donc il était au fond de la salle pendant une heure de louange. Donc la louange, elle était aussi là pour lui finalement. Lui, il était là à cause de ses devoirs, mais il était exposé à la louange. Il y a un autre qui s'est converti dans cette église, il m'a raconté, il m'a dit, tu sais, les musulmans, ils nous disent, n'allez pas chez les chrétiens parce que c'est pas bien, parce qu'ils boivent de l'alcool. Et puis, ils écoutent de la musique, parce que les musulmans purs, ils ne font pas de musique. Donc, lui, il a été pour voir. Il dit, ah bon, je vais aller voir ça, moi. Puis, il était par curiosité. Puis, la musique, ben, c'était la louange. Puis, l'alcool, c'était la Sainte Seine. Donc, il a bu ça, l'alcool, son petit verre. Et puis, il a écouté les chants de louange et il s'est converti. Ça l'a touché, quoi. Donc, Dieu sert la louange vraiment d'une manière incroyable dans tous ces pays-là. En Chine, il y a un immense réveil en Chine. Les églises de maison, il y a une église officielle qui est tolérée par l'État, mais la plupart des chrétiens engagés vont dans les églises souterraines, secrètes, etc. Mais il y a un tel réveil qu'ils sont des milliers, des milliers, des milliers. Donc ils ne peuvent plus se cacher, ils sont tellement nombreux. Et dans un village, ils n'avaient pas de salle, pas de culte, pas d'église, donc ils vont dans la forêt pour louer, ils s'éloignent un petit peu, mais ils se mettent à 2 kilomètres, mais ils sont 3000. Donc ils chantent tellement fort qu'on les entend jusqu'au village. Donc les gens du village, ils se plaignent, ils vont appeler la police vient, ils arrivent avec un fourgon de police, il y a 3000 personnes. Ils font quoi? Ils en prennent deux, les deux pasteurs, ils embarquent et les mettent en prison. Mais l'église, elle continue, ils nomment un autre pasteur pour remplacer, et les deux pasteurs, ils disent, bon maintenant, notre nouvelle permission, c'est la prison. Donc ils les mettent dans des cellules, souvent assez un petit groupe, ils les mettent par deux ou par trois, avec d'autres prisonniers, dit, ah ben voilà, ils évangélisent les prisonniers, ils se mettent à chanter dans la prison. Alors ils font trop de bruit, ils chantent trop, donc on les sépare. Mais dans deux autres cellules. Et les deux se mettent à chanter dans deux autres cellules. Ils les séparent, mais dans une autre prison. Et comme ça, ça se multiplie. Et dans, les prisons deviennent des lieux de louange. Et ils chantent comme Paul et Silas, mais pendant des jours et des jours et des jours. Et une fois, dans une prison, il y a un pasteur, il a dit, toute la prison s'est convertie. Non, j'ai plus rien à faire ici. Il s'est échappé au risque de sa vie pour pouvoir continuer sa mission à l'extérieur. C'est incroyable. Donc, dans ces églises en Chine, actuellement, un pasteur ne peut pas être pasteur s'il n'a pas fait au moins une année ou deux de prison. D'ici, il n'a pas fait de la prison, c'est que ce n'est pas un vrai chrétien. Il n'a pas osé se mouiller et de vraiment dire qui il est. C'est un autre niveau que chez nous. Hein. Ben, on ne va pas se comparer non plus, mais c'est bien de se laisser inspirer, se dire, voilà, il n'y a rien qui les impressionne, il n'y a rien qui les empêche d'adorer Dieu. Même que c'est compliqué, même que c'est difficile, même qu'il y a de l'opposition. Donc nous, en Occident, on a un autre problème. La persécution, elle est beaucoup plus subtile. Elle n'est pas frontale, elle n'est pas directe. On est persécuté par quoi ? Par nos agendas, par nos loisirs, par nos finances, par nos vacances, par le système économique, toutes sortes de trucs qui ne sont pas mauvais en soi, mais le fait que ça nous éteint, ça nous mange. Ça nous endort. Et les Chinois, ils nous disaient, non, ne priez pas pour que la persécution s'arrête, parce que si ça s'arrête, on va s'endormir comme vous. Ils disaient ça, certains chrétiens occidentaux. Donc, c'est bien de réfléchir à ces choses profondes et puis se dire, écoutez, on en est où là ? Alors, on a la liberté de louer, on a la liberté de chanter, puis on l'utilise même pas. On est intimidé, on a peur de déranger. Mais les amis, il faut pas avoir peur, c'est le moment de se réveiller, de se lever, de se dire non. On est libre, donc prenons cette liberté, saisissons cette liberté pour louer Dieu toutes nos forces, en laissant tomber tous les préjugés, les craintes, et l'histoire de nos églises qui nous limite, qui nous cadre, qui nous empêche d'exprimer notre louange. Et puis que cette louange, elle déborde des murs, que les gens soient attirés pour louer Dieu. Mais c'est tout un défi, hein. Je ne dis pas qu'il suffit de le faire en un dimanche comme ça, mais d'avoir cette vision-là. Donc maintenant, personnellement, avec toutes ces années, je ne me laisse plus intimider, je ne me laisse plus arrêter, je ne me laisse plus mettre dans une boîte par des réactions religieuses, etc. J'aime les gens, je respecte les pasteurs, les églises, il n'y a pas de problème. Mais je vais pas, ce n'est pas eux qui vont me donner le ton de ma louange. Ce n'est pas eux qui vont me dire ce que je dois faire ou pas faire. C'est ma conviction biblique de qui est Dieu et qui mérite la louange plus que tout le reste. Donc ça me permet de passer par-dessus les critiques, les oppositions, les réactions, à toutes sortes de choses, souvent qui sont finalement futiles. Hein? On s'achoppe à des petites choses, comme l'histoire de la batterie. Ben, je te dis, pendant 3, 4, 5 ans, j'ai dû presque me battre, comme je l'ai dit, pour défendre les batteurs. J'arrivais avec un batteur dans une église, je dis, non, on ne veut pas de batterie ici. Je dis, mais vous êtes sûr qu'il est chrétien ? Je dis, mais oui, c'est un chrétien engagé, on fait partie du même groupe de jeunes, on prie ensemble. Ouais, mais voilà. Il fallait vraiment discuter, palabrer, argumenter pour laisser la place. Puis finalement, maintenant, c'est acquis, mais il y a d'autres choses qui ne sont pas acquises. Hein? D'autres libertés, d'autres expressions, d'autres formes, ça peut être la danse, les gestes, toutes sortes de choses. On doit gagner du terrain pour Dieu. Ce n'est pas pour nous, on ne défend pas notre cause, nos goûts. On se dit, mais quand la louange elle est complètement libérée, ben, il se passe quelque chose qui est vraiment fort. Donc, un des mouvements de Dieu aussi qu'on voit aujourd'hui, c'est que la louange, elle est en train de, on est en train de comprendre que la louange, ça ne s'arrête pas au culte. Et pas à nos réunions. La louange, on est en train de redécouvrir le tabernacle de David. C'est à peu près depuis les années 2000 qu'il y a plusieurs leaders mondiaux qui ont eu cette vision, mais en même temps, en parallèle, sans se communiquer, que c'était le moment de remettre sur pied un tabernacle, c'est-à-dire une louange continuelle, une louange non-stop, une louange qui ne s'arrête pas, comme dans le ciel. Alors ça s'est déjà passé à cause du réveil, justement, en Argentine, en Chine. En Argentine, des années 90, il y a eu un tel réveil que les églises étaient trop petites. Les églises de 10 000 places, ils avaient 200 000 membres. Donc, ils avaient des cultes le dimanche, 7 cultes le dimanche. Après, ils ont dit, ça ne suffit pas, ils ont fait des cultes le lundi, puis le mardi, puis le mercredi. Tous les jours de la semaine, il y avait des cultes. Et du coup, l'église s'est transformée en un tabernacle. C'est-à-dire que l'église, non-stop, avait des réunions. Puis la nuit, ils faisaient des réunions de prière. Donc, ça ne s'arrêtait pas, parce que Dieu est plus grand que nos limites humaines. Puis en Chine, la même chose. Et puis maintenant, ben justement, il y a eu à Kansas City, par exemple, la maison de prière pour toutes les nations. À Jérusalem, il y a plusieurs maisons de prière que j'ai eu l'occasion de visiter, de rencontrer. Tout le temps, depuis maintenant 20 ans, ils sont en train de prier jour et nuit. Tu peux aller à n'importe quelle heure, tu vas là-bas et ils louent et ils prient. Et c'est assez impressionnant parce que quand tu entres là, tu dis, waouh, ils étaient déjà en train de louer. Donc toi, il faut déjà un moment pour que tu sortes de ton petit monde là, pour rentrer dans ce qui se passe. Tu attends 5, 10 minutes, 15 minutes, mais tu vois la passion, le feu, les gens. Ce n'est pas forcément des immenses foules. 10, 15, 20, 30 personnes. Mais ils prient, ils louent, ils prient, ils adorent. Et puis ça continue. Puis toi, au bout de 2 heures, 3 heures, tu dis, bon, ben, je vais quand même aller manger, je vais quand même sortir. Et tu sors et ça continue. Et tu reviens 2 heures après, et ça continue, tu reviens. Ce n'est pas toutes les mêmes personnes, évidemment. Hein, il y en a qui font 2 heures, ils se reposent, après d'autres. Mais ça ne s'arrête jamais. Et ça nous donne un avant-goût de ce qu'on va vivre dans le ciel, une louange continuelle. Donc quand les gens me disent, oh, c'est dommage, au culte, là, la louange c'est trop court. Je dis, attends, c'est juste le culte, mais la louange elle ne s'arrête pas. La louange elle a lieu partout sur la terre, il y a des gens qui sont en train de louer. Si toi tu arrêtes de louer, il y en a un autre qui continue. Il y a partout des gens qui louent Dieu. Donc il ne faut pas se limiter à ce qu'on vit dans notre propre église, mais connecté à ce que Dieu est en train de faire parmi les nations du monde, puis voir que la louange, elle est en train d'augmenter. Il y a de plus en plus de gens qui louent Dieu. Simplement, l'Occident, le monde occidental, on est plutôt un petit peu à la traîne. Et ça se passe beaucoup plus dans les pays asiatiques, dans les pays d'Afrique. Presque toutes les églises africaines font des nuits de prière, même celles qui sont en Europe. Vendredi soir, à 18h ou 20h, ils rentrent du boulot, ils vont à l'église et ils prient toute la nuit jusqu'au samedi matin. Mais ça se passe à Paris, ça se passe à Montréal, ça se passe à Genève, ça se passe à plein d'endroits, ils prient. Alors ils ont une autre façon de prier, de s'exprimer, mais ils louent bien sûr au milieu. Ils louent, ils prient, ils intercèdent. Peut-être qu'ils vont se reposer un moment, ils se réveillent, et puis ils repartent. Il y a quelque chose, il y a un mouvement quoi, qui est donné par Dieu là, qui nous réveille, qui nous secoue un petit peu. On se dit, mais là, mais moi ça fait longtemps que je n'ai pas passé une nuit dans la prière. Je ne me suis pas consacré autant que ces gens-là. Donc ça doit nous interpeller sans culpabilité, sans comparaison, mais se dire quand même, Dieu est en train de faire quelque chose. Et si Dieu est à l'œuvre, ben c'est le moment que moi je me réveille et puis que je me connecte à ce que Dieu fait. Quoi. Dieu n'a pas fini d'agir, Dieu est puissant, Dieu est à l'œuvre, et puis il aime les peuples, les nations. Et puis ça devrait un petit peu nous secouer d'imaginer que d'autres pays qu'on a évangélisé au 18e et 19e siècle, sont en train de se réveiller, d'aller plus fort que nous, puis nous renvoyer des missionnaires. Il y avait un pasteur africain qui était là, qui était en Europe, puis il disait, mais je ne comprends pas là, c'est vous qui avez envoyé les missionnaires, puis maintenant vous ne croyez plus à ça là, c'est bizarre. Il ne comprenait pas qu'on perde l'évangile, qu'on perde la foi, la force qu'on a eue, qui nous a permis d'envoyer des missionnaires. Dans tous les pays d'Afrique que j'ai visités, j'ai rencontré chaque fois des gens qui me disaient « Ah, tu es de la Suisse ? Il y avait un missionnaire suisse. C'est lui qui a évangélisé mon père. C'est lui qui a évangélisé mon village. Tu le connais ? Inconnu. Jamais entendu parler de lui. Parce qu'il a passé 40 ans dans ce village en Afrique. Inconnu en Suisse. Mais là-bas, c'est un héros national. Et je peux vous dire, un héros national dans plein de pays. À Kinshasa, au Congo, il y a beaucoup de chrétiens. La plus grosse église, c'est un pasteur suisse qui l'a créée. Il était à 20 ans là-bas, maintenant il en a 80 ans, et c'est lui le responsable principal des églises de ce pays. Personne ne le connaît ici. Mais voilà, maintenant il y en a moins de missionnaires suisses qui vont en long terme, mais il y en a qui ont en court terme, la mission elle a un peu changé, mais en tout cas ça a porté du fruit, parce qu'il y a de plus en plus maintenant d'Africains qui viennent en Europe. Bien sûr qu'il y en a qui viennent pour le travail de ça, mais beaucoup, ils viennent aussi avec une vision missionnaire. On peut mettre, il dit, ouais, ils profitent de nous pour ça. Non, il y en a vraiment qui ont une réelle vision pour amener l'évangile en Suisse. Et je vous dis, ces gens, ils payent le prix. Quand ils font des réunions de prière, qu'ils prient toute la nuit pour la Suisse, pour nos pays, je dis, est-ce que nous, on le fait ? Non, nous, on ne le fait pas. J'étais au Costa Rica dans une conférence internationale de prière. On dit, on va prier pour les pays. Tout d'un coup, on était 4 ou 5 délégués de la Suisse. Il dit, vous avez pris vos drapeaux de la Suisse ? Heureusement, ils avaient averti, on avait pris un drapeau. Je donne le drapeau, et on va prier pour la Suisse. Ils étaient 20 pasteurs, puis une quarantaine de leaders sur la scène. Ils ont prié pendant 1 heure pour la Suisse avec le drapeau. Ils pleuraient, ils criaient. Je dis, mais moi, j'ai jamais prié comme ça pour la Suisse. À l'époque, après, j'ai changé. Ça m'a vraiment interpellé. Waouh, quel feu, quelle passion. Ils sont à des milliers de kilomètres, certains. Ils ne savent même pas où c'est la Suisse. Ils ne sont jamais venus en Suisse. Mais ils prient pour nous. Donc, alors nous, c'est le moment aussi de comprendre ce que Dieu fait. Se réveiller, se dire la louange, c'est pas juste ma petite église, mon petit moment de louange, mon chant préféré, ce chant que les gens n'aiment pas ou pourquoi ils ont pas. Non, c'est une vision mondiale. Dieu déverse un esprit, son esprit, il souffle l'Esprit-Saint sur les nations pour réveiller cet esprit de louange qui nous prépare à son retour. Parce que quand il va revenir, on va l'accueillir comment? Soit on va le rejeter, soit on va l'accueillir en louange. Donc on se prépare, on se dit « Waouh, Seigneur, viens bientôt !» Et quand on dit « Viens bientôt », on se réjouit. Alors que j'aime bien comparer la louange quand je pense à Apocalypse 21 qui dit « Heureux ceux qui sont invités au repas des noces de l'agneau. » Heureux. Quand vous recevez une invitation pour un mariage, vous réagissez comment? Yes, chérie, regarde, on va aller au mariage. T'as vu? Il y a Philippe qui se marie avec Catherine. Ah, oh, ça va être super. Ah, c'est bien. Oh, on note ça dans l'agenda, on va pas manquer. Hein. Ah, puis tu vois, chérie, je vais m'acheter une nouvelle robe. Hein. Ah, je vais profiter. Hein. J'ai besoin de nouvelles chaussures. Hein. C'est d'accord. Hein. Ah, oui, moi, je vais prendre un complet. Ben. Ah, oui, tout à fait. D'accord. On s'organise, on se prépare, on y pense. Ah, il faudra qu'on fasse quelque chose, qu'on prépare un cadeau. Il faudra que on va préparer une petite chanson pour les mariés. Ouais, on va faire un truc. On va convoquer les cousins, on va répéter une chanson. Vous voyez comment on réfléchit humainement pour un mariage humain. Mais là, c'est le mariage final, le plus extrême, le plus incroyable. Heureux ceux qui sont invités au repas des noces de la nuit. On les épouse, donc on se réjouit. Yes, on est invité. Et il y a de la place pour tout le monde. Ce qui est génial, c'est qu'on peut en inviter d'autres. Ce n'est pas limité à nous. Il y a de place, on peut dire, waouh, venez avec nous au mariage. Oui, mais je ne connais pas. Venez. Vous êtes aussi invités. Vous êtes sûr qu'il y aura assez? Oui, il y aura assez à manger. Il y aura assez de place. C'est pour vous tous. Donc, et puis on prépare un petit chant pour le mariage. Donc, quand on fait la louange à l'église, je pense souvent à ça, je me dis, on répète pour le mariage. On est en train de répéter, de se préparer pour le grand chant de louange final. On sera là tous ensemble, l'épouse. Ça va être génial, non? Moi, ça m'enthousiasme. J'espère vous aussi. Ah, c'est pas l'heure de la sieste. Hein. C'est le moment de s'enthousiasmer, de se réjouir de ce que Dieu fait et ce que Dieu prépare. Dieu, il a un but, il a une vision et il nous prépare. Donc notre problème à nous, peut-être, c'est qu'on est trop pris par notre réalité, notre bout du nez et puis notre petite vie à nous. Mais Dieu, il a une vision beaucoup plus grande, beaucoup plus large. Son cœur est grand, il est vaste. Et c'est pour ça qu'on parle des tribus, des peuples, des nations et qu'on a besoin d'ouvrir notre esprit. Puis que des fois, de relativiser nos petits défis personnels ou nos petits défis d'église, ça va nous aider à passer au-dessus, disons. Et puis, je dirais, le dernier problème que je souligne maintenant avant qu'on fasse une petite pause, c'est de se dire, on est trop individualiste. On pense à nous. C'est ma place, c'est ma chaise, c'est mon champ, c'est mon église. Il y a un pasteur qui se plaignait, il dit « Seigneur, viens dans mon église, fais quelque chose dans mon église. » Puis Dieu disait « C'est quelle église? C'est l'église à qui? C'est ton église ou c'est l'église du Seigneur ?» C'est clair, si on pense que ça nous compte, qu'on contrôle, que ça nous appartient, c'est ma louange. Tu n'as pas aimé mon chant de ma louange, mais ce n'est pas ta louange, c'est pas pour toi. J'ai dit la louange, c'est pour Dieu. Donc tu donnes à Dieu, tu donnes, tu lâches, tu ne contrôles pas, mais tu donnes le maximum. Tout ça, c'est pour lui. C'est à cause de lui, c'est de lui qui viennent toutes choses. Donc on redonne, on retransmet plus loin. Donc il faut qu'on commence à penser en nous. La louange, elle doit être nous, c'est pas je. Et aujourd'hui, dans l'évolution des chants, il y a de plus en plus de chants en je. Parce qu'il y a beaucoup de compositeurs qui chantent leurs prières, c'est bien. Mais moi, j'essaye de composer des chants en nous aussi. Travailler, nous t'adorons, nous nous tournons vers toi, quand on a chanté ce matin. Ensemble, on est encore. Ce n'est pas juste moi, je me sens mal, je m'approche de Jésus, je vais mieux, tout va bien. Je viens prendre ma dose à l'église. Excusez-moi l'expression. Mais des fois, c'est un peu ça. Hein? L'église, c'est l'endroit où je respire. La vie est dure, la famille, c'est compliqué, mon boulot, ça ne va pas. Heureusement, l'église est là pour me faire du bien. Et Dieu le fait dans sa grâce. Dieu le fait. C'est extraordinaire. Il est tellement bon. Mais ça, c'est le niveau élémentaire, c'est le niveau maternel. On pense qu'à nos besoins. Les enfants, en maternelle, ils n'ont que leurs besoins à eux. Quand on grandit, on commence à penser aux autres, à avoir une maturité qui nous permet de voir le monde différemment que de penser plus qu'à nous. Donc l'Église, c'est un corps où on pense aux autres, on sert les autres et on sert le monde. On ne vient plus pour nous. Et ça, c'est un des grands défis. C'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup d'Églises qui passent par des crises profondes. C'est parce que les gens viennent se servir à l'Église. Puis si on ne leur sert pas le bon plat, bah, ils quittent. Comme un bon restaurant, non, je n'ai pas été bien servi, mettre des mauvaises notes sur TripAdvisor, et puis ils ne vont plus. Et puis il faut surtout que personne aille là. Non, cette église, c'est une catastrophe, les chants qui chantent, ça ne va pas, le pasteur, il a dit ça, moi je ne viens plus. Et puis ils vont dire à tout le monde qu'il ne faut surtout pas aller dans cette église. Regardez comme ça, c'est l'esprit de destruction, du mal, du méchant qui fait ça. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Il n'y a pas tout qui nous convient dans l'Église. Je ne connais aucune Église parfaite. Si elle est parfaite, puis que vous y allez, elle ne sera plus parfaite. Donc, de toute façon, vous n'allez pas la trouver sur terre. Par contre, qu'est-ce que vous apportez à l'Église? Moi, maintenant, je ne me pose plus la question, qu'est-ce que je vais recevoir? Je dis, qu'est-ce que je vais donner? Qui est-ce que je vais pouvoir bénir ce matin? Qui est-ce que je vais pouvoir encourager? Pour qui est-ce que je vais pouvoir prier? Comment est-ce que je peux louer Dieu d'une manière qui va bénir et encourager les autres? Et comment je vais être en communion? Si c'est pour rester tout seul avec Dieu, je n'ai pas besoin d'aller à l'Église. Si j'ai ma communion parfaite avec Dieu, je suis en paix, Dieu m'aime, moi je l'aime, je reste chez moi. Mais si Dieu a créé l'Église, c'est justement pour qu'on sorte de cette mentalité individualiste, qu'on partage, qu'on soit ensemble en train de vivre la même chose, de se frotter les uns aux autres, de s'encourager, de relever les défis. Et c'est un défi, c'est vrai, l'Église c'est un défi, un immense défi. Mais c'est aussi un témoignage extraordinaire pour le monde, qui dérange. Tant qu'on est dans une religiosité très mystique, ça convient au monde. D'ailleurs, quand il y a des reportages à la télévision sur l'Église, ils relèvent toujours positivement quand c'est mystique. Hein? Quand c'est un truc un peu, oui, c'est un peu, c'est religieux, c'est beau, regardez, ces grands mystiques, regardez, voilà, comme ils adorent les icônes, ils font des trucs comme ça. Ça leur convient. Mais dès qu'il y a quelque chose de vrai, de vécu, de communautaire, d'ensemble, un groupe important de chrétiens qui vivent quelque chose, ouh là là, ça freine, c'est proche de la manipulation, du contrôle, de la secte, etc. Ça fait peur. Et pourtant, c'est ce que Dieu veut. Et c'est ça qui confronte le monde dans lequel on vit. Et on a besoin de vivre cette communauté. Parce que l'homme, en fait, les gens qui viennent à l'Église, ça, ils le recherchent. Et quand ils le trouvent, ils sont touchés. Je pense que les gens qui ne connaissent pas l'Église et qui découvrent la famille de l'Église, vraie, telle que Dieu l'a voulu, ça les interpelle. Si on se soutient, on s'encourage, on prie ensemble, on adore ensemble, on écoute ensemble, on vit quelque chose ensemble, mais c'est un immense défi. Et la louange y contribue beaucoup. Donc il faut que dans la louange, et c'est ce qu'on parlait à midi, il faut qu'on arrive vraiment à rejoindre les générations, à mélanger les gens, à mélanger les styles, les groupes, les générations, et puis pas avoir peur de vivre tout ça ensemble, pas d'une manière parfaite. Parce que la perfection, on s'en lasse très vite aussi. Vous savez, si vous avez une louange aseptisée, parfaite, il n'y a pas de fausse note, tout est nickel, au bout d'un moment, on se dit, mais il manque quelque chose. C'est tellement parfait qu'on se dit, mais où est la vie? Quand il y a de la vie, il y a peut-être même des fausses notes. Hein? Je ne dis pas, j'encourage pas les fausses notes, mais s'il y en a une de temps en temps, ce n'est pas grave. Ça m'arrive encore de me tromper dans les paroles, dans un départ, dans un truc. Puis finalement, je m'en veux pas, je me frappe pas pendant une semaine, en disant, mince, mais quelle catastrophe, mais pourquoi j'ai fait ça, mais quelle horreur, mais ils vont plus jamais me demander de chanter, oh mais pourquoi, non, Seigneur me pardonne, je l'aime toujours et m'aime toujours, comme je ferais de même avec mes enfants, c'est quand ils font une erreur, mais je me relève et je continue et je lâche pas, parce que j'ai une vision qui est plus large que le bout de mon nez, et puis je vise l'Église au sens large. Alors voilà, on va faire une petite pause. Et puis on reprend dans 15 minutes pour la suite. Ça va ?